Chemin de croix faisant sur les routes du monde, je connus une race d'hommes étranges. Ils portaient la houppelande de leur solitude.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, c'est le quatrième numéro du temps des poètes. Nous nous étions quittés, c'était à peine le printemps, nous sommes maintenant bien au printemps. Au programme aujourd'hui, petite histoire de la poésie, nous abordons le XIIIe siècle avec notamment Guillaume de Machaut. Et puis nous verrons aussi la Renaissance dans les mouvements, dans le cadre des mouvements poétiques. Portrait d'un poète aujourd'hui, Joachim Dubélé. Nous allons mettre en avant une chanson. Il n'y a pas d'amour heureux qui a été interprété par Georges Brassens. Il y a eu aussi Barbara qui l'a interprété. Il y aura bien sûr l'actualité de la poésie. Nous allons extraire une archive avec André Breton qui va nous parler du surréalisme. Nous terminerons par la lecture de quelques poèmes et puis aussi la rubrique désormais fameuse des paroles enregistrées dans la rue, les bruits de la rue. On a vu lors d'une précédente émission que le Moyen-Âge n'est pas celui de la pesanteur et de l'obscurité intellectuelle. Au contraire, c'est le début des poèmes d'amour, des poèmes irrévérencieux, de la poésie qui dénonce l'injustice. C'est notre petite histoire de la poésie aujourd'hui qui va nous amener au XIIIe et XIVe siècle. Les phatrasies que les poètes composent au XIIIe et XIVe siècle sont du surréalisme avant la lettre, comme ces vers composés par Jehan Baudel d'Arras, le poète lépreux. Un ours emplumé fit semer un blé de Douvres à Ouessant. En 1225, s'écrit le roman de la Rose, commencé par Guillaume de Loris et poursuivi par Jehan de Meung. Guillaume de Loris s'inspire de l'art d'aimer d'Ovide et des romans de Chrétien de Troyes. Les princes ne méritent pas qu'un astre annonce leur trépas. Plutôt que la mort d'un autre homme, leur corps ne vaut pas une pomme. De plus qu'un corps de charretier, qu'un corps de clerc ou d'écuyer. La revendication de la poésie a plus d'égalité et est déjà très présente. Mais le monde change. C'est la fin de la chevalerie, la limitation des privilèges de la féodalité, l'organisation du pouvoir royal. Guillaume de Machaut, dont je vous ai parlé dans la présentation du programme, également musicien, reprend dans son dit du verger et dans son dit de la fontaine amoureuse les principes mis en œuvre par Guillaume de Lorris dans le roman de la rose. Une vipère réside dans le cœur de madame qui étouffe son oreille de sa queue pour qu'elle n'entende pas mes lamentations. Voilà, rien de plus, ce qui la tient aux aguets tout le jour. Et dans sa bouche ne se repose jamais le scorpion qui blesse mon cœur à mort. Son doux regard abrite un basilic. Tous trois m'ont tué, mais elle, que Dieu la garde. Lorsqu'en pleurs je la supplie de m'aimer, dédain s'offusque qu'elle souhaite m'écouter. Et même si elle se fie aux plaintes de mon cœur, dans sa bouche, refus n'est jamais en repos, mais violemment me blesse au cœur. Et son regard s'amuse et se réjouit de voir mon cœur qui fond, frit et brûle. Tous trois m'ont tué, mais elle, que Dieu la garde. Amour, tu sais quelle douleur elle m'a infligée et que je suis à elle pour toujours, que je le veuille ou non. Mais quand tu fuis et que loyauté se dérobe et que pitié ne désire pas qu'elle s'anime, je ne vois ici aucune autre consolation qu'une mort rapide. Car pour mon plus grand malheur, dédain, refus et regard me brûlent le cœur. Tous trois m'ont tué, mais elle, que Dieu la garde. Toujours Guillaume de Machaut, une vipère réside dans le cœur de madame. La louange des dames, ballade écrite entre 1324 et 1377, traduction de l'ancien français d'Adrien Fromage et Pierre-Michel Saillant en 2019. Comme poète, il y a eu aussi Eustache Deschamps. Avec une seule phrase, on voit toute la poésie de ce poète, tous détruits, et ne sait-on comment.
Voici ce qu'il advint, jadis grosso modo, entre la rue Didot et la rue de Vanves, dans les années 40 où je débarquais de mon Languedoc, entre la rue de Vanves et la rue Didot. Passait une belle Gretchen au carrefour du château, entre la rue Didot et la rue de Vanves. Calipige à prétendre jouer les Vénus chez les Hottentots, entre la rue de Vanves et la rue Didot. En signe d'irrespect, je balance aussitôt, entre la rue Didot et la rue de Vanves. En geste de revanche, une patte croche au bas de son dos, entre la rue de Vanves et la rue Didot. La souris grise se fâche et subit au presto, entre la rue Didot et la rue de Vanves. La conne, la méchante va demander ma tête à ses petits poteaux, entre la rue de Vanves et la rue Didot. Deux sbires sont venus avec leur noir manteau, entre la rue Didot et la rue de Vanves. Se pointer dans mon entrée, sûrement pas pour me faire de cadeaux, entre la rue de Vanves et la rue Didot. J'étais alors en train dessus et sans réo, entre la rue Didot et la rue de Vanves. De muser les phalanges sur un chouette accord du père Django, entre la rue de Vanves et la rue Didot. Par un heureux hasard, ces enfants de salauds, entre la rue Didot et la rue de Vanves. Un sacré coup de chance aimait la guitare et les trémolos, entre la rue de Vanves et la rue Didot. tourner sans finir leur boulot. Entre la rue Didot et la rue de Vanve, fredonnant un mélange de Lily Marlène et d'Aïli Aïlo. Entre la rue de Vanve et la rue Didot. Une supposition qu'ils aient comme Malraux. Entre la rue Didot et la rue de Vanve, qu'ils aient comme ce branc compté la musique pour moins que zéro. Entre la rue de Vanve et la rue Didot. M'aurait collé au mur avec ou sans bandeau. Entre la rue Didot et la rue de Vanve, on lirait quelle navrance mon blaze inconnu dans un ex-voto. Entre la rue de Vanve et la rue Didot. Au théâtre ce soir, ici sur ces tréteaux. Entre la rue Didot et la rue de Vanve, poussant une autre goëlante, y aurait à ma place un autre cabot. Entre la rue de Vanve et la rue Didot.
Les mouvements poétiques, la poésie à la Renaissance. La Renaissance se caractérise par un retour à l'Antiquité. C'est une poésie plus engagée. Certains auteurs s'inspirent de la poésie du Moyen-Âge pour créer une poésie plus personnelle. C'est le cas de Clément Marot, considéré comme un des premiers poètes français modernes. Il a notamment mis en vers des psaumes de la Bible et a diffusé l'usage du sonnet. Certains poèmes de la Renaissance sont également des poèmes engagés. Ils défendent une cause. Exemple, les hymnes de Ronsard, célébration de l'histoire et réflexion philosophique sur la politique, la justice. L'importance de la poésie engagée s'explique par le contexte politique des guerres de religion. Mais l'histoire de la poésie du VIe siècle est surtout marquée par un groupe de poètes qui s'intitule la Pléiade, d'abord appelée Brigade. Alors de qui se compose ce groupe de poètes? C'est un groupe de 7 poètes français humanistes réunis sous l'égide de Jean Dorat, helléniste et écrivain. Le groupe comprend Pierre de Ronsard, chef de file de la Pléiade, surnommé le prince des poètes. Il est surtout connu pour ses sonnets et sa poésie engagée et lyrique. Joachim Dubélé fait également partie de ce groupe, auteur d'un manifeste pour le mouvement Défense et Illustration de la langue française et de célèbres sonnets élégiaques, Les Regrets. Et puis dans ce groupe, il y a également Rémi Bello, Jacques Pelletier-Dumont, Antoine de Beff, Pontus de Thiars, Étienne Jodel. Ces poètes veulent diffuser le savoir et la connaissance humaniste et faire reculer le monstre ignorance. Ils veulent rompre également avec la poésie médiévale et favoriser le retour aux œuvres de l'Antiquité et diffuser la culture antique. Ils veulent utiliser la langue française plutôt que le latin, qui était la langue des textes littéraires de l'époque, et enrichir et renouveler la langue. Ils veulent faire également de l'usage de la langue française un moyen d'unifier le pays en s'inspirant pour cela de l'italien. On voit toute l'importance de la poésie à cette époque en matière d'unité du pays. Ces idées sont exprimées dans le texte de Joachim Dubélé, Défense et illustration de la langue française, considéré comme un manifeste du mouvement. Les caractéristiques de la poésie de la Pléiade, eh bien, c'est une poésie élégiaque. L'élégie, littéralement chant du deuil, désignait sous l'Antiquité un poème composé d'hexamètres et de pentamètres dactyliques. Elle a donné naissance à un genre caractérisé par l'expression de la souffrance et de la mélancolie, souffrance amoureuse, souffrance liée à la mort. Les thèmes principaux sont la mort, la fuite du temps, l'amour et la nature. On y retrouve parfois des figures de style et la construction et de la construction de phrases exclamatives, l'expression d'un jeu lyrique, la métaphore pour traduire les souffrances du poète. Un bon exemple est les poèmes des regrets de Dubélé. Le sonnet de Ronsard, « Quand vous serez bien vieille », a été écrit à peu près à cette époque, en 1578. C'est un extrait des sonnets pour Hélène. « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, lors vous n'aurez servante, ayant telle nouvelle. Déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle, je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, des formes poétiques qui rompent avec celles du Moyen-Âge, on le voit. Les poètes de la Pléiade rédigent avant tout en alexandrin, un vers de 12 syllabes séparé à l'hémistiche, la moitié du vers, par une césure. Ils rédigent également des sonnets. C'est un sonnet, c'est un poème de forme fixe, comprenant deux quatrains avec une strophe de quatre vers et deux tercets avec une strophe de trois vers. Des odes, poèmes lyriques de sept strophes célébrant un individu ou une action. C'est un genre populaire dans l'Antiquité. Il était pratiqué par Homère notamment. Ronsard a rédigé des sonnets dédiés notamment à trois femmes, Marie, Hélène et Cassandre, trois femmes dont l'identité n'est pas connue. Il y évoque notamment la fuite du temps, la nature, l'amour et la femme aimée, et également les souffrances amoureuses. On voit la modernité de ces poèmes et on voit qu'on s'éloigne des poèmes qui étaient écrits par des clercs ou par des religieux, on s'éloigne de la poésie religieuse et la poésie devient beaucoup plus moderne. C'est la naissance de la modernité de la poésie française.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloigner la misère. Nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre. Messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Joachim du Bellay est un poète français né vers 1522 à Liré, en Anjou, et mort le 1er janvier 1560 à Paris. Sa rencontre avec Pierre de Ronsard fut à l'origine de la formation de la Pléiade, groupe de poètes pour lequel du Bellay rédigea un manifeste, La défense et l'illustration de la langue française. Son œuvre la plus célèbre, Les Regrets, est un recueil de sonnets d'inspiration élégiaque, puis satirique, et finalement encomiastique, écrit à l'occasion de son voyage à Rome de 1553 à 1557. Vers 1522, Joachim du Bellay, né à Liré en Anjou, dans l'actuel département de Maine-et-Loire, fils de Jean du Bellay, seigneur de Gonore, et de René Chabot, originaire de Liré, il appartient à la branche aînée de la famille du Bellay. Dans cet établissement, sous l'influence de Jean Dorat, professeur de grec, les deux jeunes hommes décident de former un groupe de poètes qu'ils appellent d'abord la Brigade, on en a parlé tout à l'heure. Leur objectif est de créer des chefs-d'œuvre en français d'aussi bonne facture que ceux des Latins et des Grecs de l'Antiquité. Ce but s'accorde à la perfection avec celui de François Ier, qui souhaite donner des lettres de noblesse aux Français. Jacques Pelletier du Mans approuve leur projet et les accompagne dans leur entreprise. Du Bellay signe en 1549 un manifeste collectif, La défense et l'illustration de la langue française. La brigade se transforme en Pléiade avec l'arrivée de quatre nouveaux membres, Rémi Bellot, Étienne Jodel, Pontus de Thiars et Jean-Antoine de Beff. Joachim du Bellay publie dès l'année suivante son premier recueil de sonnets, L'Olive, imitant le style de l'italien Pétrarque. En 1553, du Bellay quitte la France pour accompagner le cardinal Jean du Bellay, cousin germain de son père, à la cour pontificale de Rome. En août 1557, Joachim du Bellay tombe malade et souffre de plus en plus de la surdité. Le cardinal Jean du Bellay le renvoie en France. En janvier 1558, il fait publier par Frédéric Morel, l'Ancien, son recueil Les Regrets ainsi que les Antiquités de Rome. La même année, il écrit son poème Épitaphe d'un chat, en souvenir de son chat chartreux, Bello, pour lequel il avait la plus grande affection et qui lui tenait compagnie lorsqu'il écrivait ou était souffrant. Du Bellay meurt des suites d'une apoplexie dans la nuit du 1er janvier 1560 au numéro 1 de la rue Massillon à Paris, à l'âge de 37 ans. Il aurait été inhumé en la chapelle Saint-Crépin de la cathédrale Notre-Dame de Paris, aux côtés de son oncle, Louis du Bellay, décédé 20 ans plus tôt. Mais en 1758, on ne retrouva pas le cercueil du neveu auprès de celui de son oncle. En avril 2022, lors de fouilles menées par l'INRAP, après l'incendie de la cathédrale de 2019, une dépouille est découverte dans un sarcophage en plomb. Des analyses scientifiques révèlent des traces de tuberculose osseuse et de méningite chronique sur le squelette. D'après Éric Crubézy, médecin et professeur d'anthropologie à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, ces seuls indices laissent peu de doutes sur l'identité du défunt. Il s'agirait de Joachim du Bellay, car le poète présentait les symptômes de ses maladies dans les dernières années de sa vie. Ceux qui sont amoureux, leurs amours chanteront. Ceux qui sont amoureux, leurs amours chanteront. Ceux qui aiment l'honneur chanteront de la gloire. Ceux qui sont près du roi publieront sa victoire. Ceux qui sont courtisans, leur faveur vanteront. Ceux qui aiment les arts, les sciences diront, ceux qui sont vertueux, pour tels se feront croire. Ceux qui aiment le vin, deviseront de boire. Ceux qui sont de loisirs, de fables écriront. Ceux qui sont médisants, se plairont à médire. Ceux qui sont moins fâcheux, diront des mots pour rire. Ceux qui sont plus vaillants, vanteront leur valeur. Ceux qui se plaisent trop, chanteront leur louange. Ceux qui veulent flatter, feront d'un diable un ange. Moi qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Joachim du Bellay, Les Regrets, en 1558.
La petite presqu'île où jadis bien tranquille, moi je suis né natif. Soit dit sans couillonnade, avait le nom d'un adjectif démonstratif. Moi personnellement, que je meurs si je mens, ça m'était bien égal. J'étais pas chatouillé, j'étais pas humilié dans mon honneur local. Mais voyant de l'infamie dans cette homonymie, des bougres s'en sont pleins. Tellement que bientôt on a changé l'orthographe du nom du patelin. Et j'eus ma première tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. Si faire se peut, attendez un peu, messieurs les édiles, que l'on soit passé pour débaptiser nos petites villes. La chère vieille rue où mon père avait cru, on ne peut plus propice d'aller construire sa petite maison, s'appelait rue de l'Hospice. Se mettre en quête d'un nom de rue plus opportun ne se concevait pas. On ne pouvait trouver mieux vu qu'un asile de vieux florissait dans le bas. Les anciens combattants, tous comme un seul sortant de leur vieux trou d'obus, firent tant qu'à la fin la rue de l'Hospice devint la rue Henri Barbus. Et j'eus ma deuxième tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. Si faire se peut, attendez un peu, héros incongrus, que l'on soit passé pour débaptiser nos petites rues. Moi la première à qui mon cœur fut tout acquis s'appelait Jean-Martin. Patronyme qui fait pas tellement d'effet dans le bottin mondain. Mais moi j'aimais comme un fou ce nom si commun, n'en déplaise au Ninus. D'ailleurs de parti pris, celle que je chéris s'appelle toujours Vénus. Et la Saint-Béotien à la place du sien lui proposa son blase. Femme dans l'épicerie et cette renchérie refusa pas, hélas. Et j'eus ma troisième tristesse d'Olympio, déférence gardée envers le père Hugo. Si faire se peut, attendez un peu, 5 minutes non. Gente fiancée, que l'on soit passé pour changer de nom.
La poésie est partout. Il n'y a pas d'amour heureux est un poème de Louis Aragon, écrit en janvier 1943 et publié dans le recueil La Diane française en 1944. L'auteur y exprime sa conception de l'amour comme un absolu inaccessible. Il y fait également de nombreuses références à la résistance, notamment dans la dernière strophe, un poème chanté notamment par Georges Brassens.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertaines, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Le poème fut écrit à Montchat, c'est Aragon, l'auteur du poème, bien sûr. Le poème fut écrit à Montchat, dans le quartier du 3e arrondissement de Lyon, chez un ami d'Aragon, lui aussi poète et résistant, René Tavernier, qui le cachait, ainsi qu'Elsa Triolet pendant l'occupation. La maison, aujourd'hui disparue, se trouvait au numéro 4 de la rue Champbeauvais, à l'emplacement de l'actuel parc Champbeauvais, où une plaque commémorative garde depuis 1993 le souvenir du lieu d'écriture du poème. Dans un entretien avec Francis Crémieux, diffusé le 28 décembre 1963 sur la RTF, Aragon a expliqué qu'à l'époque où il a écrit le poème, Elsa voulait le quitter en raison d'une règle dans la résistance, selon laquelle un couple opérant dans ces mouvements ne pouvait pas continuer à vivre ensemble pour des raisons de sécurité en cas d'arrestation. Le manuscrit du poème a été présenté en 1972 lors d'une exposition sur Elsa Triolet à la Bibliothèque Nationale. Néanmoins, le fils de René Tavernier, Bertrand Tavernier, raconte que le manuscrit original est toujours en la possession de son père et que c'est un autre manuscrit qui a été exposé à la Bibliothèque Nationale. En effet, le poème a été dédicacé à sa mère Geneviève et selon celle-ci, Aragon a fait un deuxième manuscrit après la guerre car la dédicace avait provoqué une scène de ménage avec Elsa Triolet. Un fac-similé du manuscrit de René Tavernier a été publié en 2010 dans la revue La Règle du Jeu. Ce poème, amputé de sa dernière strophe et ayant fait l'objet de changements mineurs, est mis en musique et enregistré par Georges Brassens en 1953. Brassens utilise la même mélodie pour mettre en musique un autre poème, La prière de Francis James, un écrivain catholique, ce qui offusquera le communiste Louis Aragon. Aragon estimait également que cette amputation était un contresens qui changeait toute la signification de son texte. Poème de résistance et non simple chanson d'amour. Catherine Sauvage a enregistré une version en 1955 sur la musique de Brassens, une version qui en réintègre la strophe amputée. Mais la chanson a été reprise par de nombreux artistes, dont Barbara sur l'album Barbara chante Brassens en 1960, Françoise Hardy sur l'album Ma jeunesse Foulcan en 1967, Georges Chelon, Hugo Frey, etc.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna.
On écouterait avec plaisir Georges Brassens encore plus longtemps, mais je crois qu'il va nous manquer un peu de temps. Alors on va écouter tout de suite une archive intéressante. C'est une archive où l'on entend André Breton, le poète André Breton, spécialiste du surréalisme. Justement, André Breton nous parle du surréalisme dans cette archive.
André Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple. Et je vais vous demander, qu'est-ce que le surréalisme ? Voulez-vous nous en donner une définition ?
Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée, en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
C'est vous, d'ailleurs, n'est-ce pas, André Breton, avec quelques amis, je crois, qui avez le premier attiré l'intérêt des artistes sur cette nouvelle notion. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé pour vous ?
Eh bien, tout cela avait commencé quelques années plus tôt, lorsque, à la suite de certaines notations que j'avais pu faire de phrases entendues, soit à l'approche du sommeil, soit au réveil, mon attention s'était portée sur elles et où j'avais été entraîné à les noter et à leur trouver un timbre extrêmement particulier et nouveau. Ces phrases, nous avions projeté alors, c'était en 1919, mon ami Philippe Soupeau et moi, de les provoquer systématiquement par une sorte d'abandon complet de toute espèce de réaction sensible aux choses qui nous entouraient, de manière à isoler autant que possible ces sortes d'interventions mystérieuses qui se produisent au moment où, justement, l'esprit se maintient tout à fait au repos.
Est-ce que vous n'avez pas été en contact un petit peu avant avec Freud ?
J'ai été en contact avec Freud, avec lui personnellement, en 1921, lors d'un voyage à Vienne. Mais j'étais familiarisé avec les notions de la psychanalyse depuis plus longtemps, car j'avais eu l'occasion, étant mobilisé comme médecin auxiliaire, de pratiquer les méthodes de la psychanalyse sur les malades d'un centre de neuropsychiatrie qui se met alors dans le centre de la France.
Alors, est-ce que vous pensez que les formules du surréalisme que vous avez appliquées à l'époque pouvaient avoir une parenté avec les découvertes de la psychanalyse ?
Elles avaient certainement cette parenté, car elles procédaient d'une sorte de monologue que Freud préconisait comme moyen d'investigation du psychique de ses patients. Il s'agissait pour nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas assujettis à une volonté de traitement psychanalytique, de retrouver justement le fil de ces de ces relations verbales, n'est-ce pas, à travers cette sorte de dictée à laquelle nous voulions parvenir.
Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que vous avez fait connaître l'écriture automatique, par
oui,
exemple
c'est oui, c'est cela. Alors ceci, par conséquent, précédait de 5 années la définition que j'ai citée tout à l'heure. Nous avions donc, Soupault et moi, rempli un certain nombre de cahiers d'écriture non surveillés, en nous interdisant scrupuleusement de nous relire ni d'apprécier en cours de route le produit de cette activité.
En somme, c'était une réaction contre la raison trop raisonnante.
Oui, c'est cela, contre le rationalisme, d'une part, et contre le positivisme philosophique, d'autre part.
Est-ce qu'à l'époque même, vous n'avez pas été amené à rencontrer Dada ?
Oui, c'est-à-dire que nous avons rencontré Dada, Soupault, Aragon et moi, n'est-ce pas ? Environ en 1918, au moment où venait de paraître le manifeste Dada 1918, publié par Zahra, alors qu'il se trouvait encore à Zurich.
Est-ce qu'il y avait une parenté dans vos façons de penser ?
Il y avait une très grande parenté qui était surtout d'ordre affectif. Parce que ce manifeste, et d'une manière générale, les différents manifestes Dada exprimaient une très grande révolte à l'égard de la société du temps et du système de valeurs qui avait été en cours jusqu'à la guerre.
Et c'est à ce moment, et à ce moment-là, vous étiez d'accord avec eux. Absolument. Est-ce que vous pouvez évoquer, alors je dirais, le côté anecdotique de ces réunions où vous, jeunes surréalistes et les dadaïstes, étiez aux prises, disons, avec le grand public ?
Oui. À ce moment-là, nous étions définis pour le public tous comme dadaïstes. Le mot surréalisme avait cours parmi nous, mais il n'avait pas encore pratiquement droit de citer. Ces réunions, qui étaient des réunions publiques, avaient lieu dans des salles que nous louions à Paris, et elles reproduisaient assez sensiblement des manifestations dada, telles qu'elles avaient déjà eu lieu, surtout à Zurich, où un certain nombre de dadaïstes s'étaient rencontrés pendant la guerre. Il s'agissait surtout de Harp, de Zahra, de Schwitters, de Picabia aussi. De sorte que les manifestations dada de Paris, à l'origine, n'ont pas eu un caractère très spécifique.
Beaucoup de revues consacrent depuis longtemps des livraisons entières à des écrivains. À côté des revues indispensables pour la diffusion d'une œuvre, sont édités récemment des dictionnaires affectés à des écrivains. Aujourd'hui, le volume Max Jacob suit un ensemble paru au gré des propositions d'universitaires. Le résultat est un volume qui entend tenir compte de tous les aspects, de l'œuvre publiée ou inédite, de la création à la réception et de ce qui l'entoure. On lira des notices sur les revues auxquelles il a proposé des écrits, les galeries où il a exposé, sur tous ceux qui ont compté pour lui, ou ont écrit à propos de tels livres, et sur tous ses correspondants. Ces renseignements, je les ai trouvés sur un site très intéressant, consacré à la poésie, le site Citaudi, on peut le prononcer comme ça, on trouve une critique de ce dictionnaire Max Jacob. Alors, dans ce dictionnaire, les articles thématiques sont nombreux, beaucoup sont attendus, il y a des articles sur l'image, le poème en prose, c'est un dictionnaire. Chaque notice du dictionnaire est suivie d'une bibliographie. On en lira 424, rédigée par plus de 70 contributeurs. Et il faut ajouter une bibliographie des œuvres et la liste alphabétique des entrées. L'ambition des éditeurs qui ont rassemblé ces matériaux était de rendre compte de l'abondance des études jacobiennes depuis la disparition du poète et ainsi de marquer son importance dans la littérature du XXe siècle. Poète, conteur, romancier, Max Jacob a écrit des méditations religieuses, des lettres fictives, sans oublier de rendre compte de son énorme correspondance et de son œuvre de peintre. Il a participé au débat esthétique des années 1900-1920 de Jarry à Reverdy, qui lui ouvrit sa revue Nord-Sud. Il passait quotidiennement dans son atelier au bateau Lavoir et le peintre lui a présenté André Salmon, Apollinaire. Également, c'est ce dernier qui a publié en 1905 ses premiers poèmes dans sa revue Les Lettres Modernes, d'autres dans Les Soirées de Paris en 1914, et Max Jacob a dirigé en 1917 le chœur des Mamelles de Tirésias. L'ordre alphabétique émiette évidemment les informations, mais il est aisé de circuler dans le volume, les éditeurs ayant multiplié d'un article à l'autre les renvois. Donc le dictionnaire Max Jacob, très intéressant, c'est une parution récente. Et puis toujours dans l'actualité de la poésie, Gabriel Memné Okundi est un grand poète de la mémoire et de l'initiation, né en 1962 à Okondo, en République démocratique du Congo. Il est établi près de Bordeaux, où il travaille comme psychologue clinicien. Les Occitans me lisent, ma poésie leur est accessible et ils l'apprécient. C'est parce que nous avons en commun une sensibilité à la parole souveraine, écrit-il. Si ton itinéraire te désavoue, accepte de tomber sans précaution, la chute est humaine, ne pleure pas, elle est le témoin de la traversée des sentiers. Ne pleure pas, l'expérience est au prix de la marche éternelle, ni colère ni désespérance chez Okundi, mais la conscience de la fragilité humaine. Le destin ne se lasse pas de l'homme, et tout homme doit savoir être propriétaire de ses empreintes. Avancer, ne pas oublier, l'âme blessée d'un éléphant noir suivi de stèles du point du jour de Gabriel Mené Okundi, préface de Boniface Mongo Mboussa, donc je répète, préface de Boniface Mongo Mboussa, édité dans la collection Poésie Gallimard, c'est une parution récente.
Le reste du temps.
C'est-à-dire, par exemple
Janvier, février.
Made in France. Qu'est-ce que ça signifie?
Made in France. Oh, bah, c'est une marque de vêtements, de choses comme ça, non? Mais Made in France. Bah, c'est partout, c'est marqué Made in France comme ça.
Oui. Merde pour la France.
Et pourquoi ils diraient ça, les Anglais?
Je sais pas. Peut-être parce qu'ils nous aiment peut-être pas trop.
Les Anglais?
Oui, non?
Alors, rumsteak, ça serait?
Une viande faite au four avec du rhum.
At home, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Atomes, ce sont des molécules que l'on trouve dans la recherche scientifique. Il y a des atomes, on trouve des atomes dans la recherche. Enfin, c'est la recherche, ou à Orsay, ou dans les facultés, on travaille sur les atomes. C'est une histoire de recherche.
Être at home, par exemple.
Être atome, ça n'a aucune signification, ça. Atome.
Et oui, il y a vraiment de la poésie dans la rue. La poésie, on la trouve aussi dans la rue. Je vous propose la lecture d'un poème maintenant de Guillaume Apollinaire qui s'intitule « À la partie la plus gracieuse ». Toi qui regardes sans sourire et de face en tournant le dos, tu me sembles un beau navire, voile dehors et quel dodo. Promets cet édredon de neige, neige rose de Mésidon, à Mars et Vénus, le reverrai-je, cet édredon de Cupidon. Ô gracieuse et calipige, tous les culs sont de la Saint-Jean, le tien leur fait vraiment la pige, déesse aux collines d'argent, d'argent qui serait de la crème, et des feuilles de rose aussi, aussi, belle croupe, je t'aime, et ta grâce est mon seul souci. Secteur des Hurlus, le 4 août 1915, Guillaume Apollinaire, poème à Lou. Ainsi le jeune amant d'André Chénier. Ainsi le jeune amant, seul, loin de ses délices, s'assied sous un mélèze au bord des précipices. Et là, revoit la lettre où, dans un doux ennui, sa belle amante pleure et ne vit que pour lui. Il savoure à loisir ces lignes qu'il dévore. Les lit et les relit et les relit encore, baise la feuille aimée, et la porte à son cœur, tout à coup de ses doigts l'aquilon ravisseur, vient, l'emporte et s'enfuit. Dieu, il se lève, il crie, il voit par le vallon, par l'air, par la prairie, fuir avec ce papier, cher soutien de ses jours, son âme et tout lui-même et toutes ses amours, il tremble de douleur, de crainte, de colère, dans ses yeux égarés roule une larme amère. Il se jette en aveugle à le suivre, empressé, court, saute, vole, et l'œil sur lui toujours fixé, franchit torrent, buisson, rocher, pendante cime et latin hors d'haleine à travers les abîmes. André Chénier, ainsi le jeune amant. Thank you. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers, tout remplis d'elle, « Quelle est donc cette femme ?» et ne comprendra pas. Félix en vers, Mes heures perdues, un poème écrit en 1833. Je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout quand j'ai quitté les feux, dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. C'était un poème d'Edmond Rostand, tiré de la pièce Cyrano de Bergerac, scène 7, écrit en 1897. Il va bientôt falloir nous quitter, malheureusement. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouvera bien sûr en mai pour la 5e émission. J'espère que je vais avoir le temps de vous dire au revoir en tout cas. C'est le temps des poètes, la 4e, et surtout n'oubliez pas de lire de la poésie.